J'ai pensé à ce merveilleux verset que vous trouvez dans Joël. Il y a tant de perles précieuses dans ces petits prophètes que bien souvent on ignore. Je vous redonnerai les années perdues. Tout peut commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mot du Saint-Esprit. Et le Seigneur ne veut plus que tu regardes en arrière. Sur ce passé, le sang du Christ se trouve. Tu l'as confessé, tout est couvert. Maintenant, tu es l'objet de sa grâce et tu regardes en avant. Derrière nous, la paix de Dieu. Aujourd'hui, la grâce de Dieu et demain, la gloire. Alors, c'est merveilleux. On ne se décourage pas et on croit ces paroles. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les liecs, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre eux. C'est beau. Tout peut commencer aujourd'hui. 5 juillet 1989. Et voyez-vous, dès qu'on a senti cela, qu'on se ressaisit, qu'on se réveille de notre tiédeur, de notre torpeur, on peut dire qu'un jour peut en valoir 1000. C'est ça qui est merveilleux. Psaume 84. Un jour dansé par vie, un jour où l'on prend conscience qu'il est préférable de demeurer même sur le seuil du parvis de l'Éternel que dans les tentes de la méchanceté. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, vous pouvez avoir 1000 jours valables devant Dieu pour un seul jour que vous vivez avec lui. C'est tonique. Hein? On ne fait pas de dépression. Personne n'a le droit de vous ôter votre joie. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Là, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas penser qu'il y aura progrès, qu'il y aura bénédiction. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne, celui qui se ressaisit et qui dit au Seigneur, c'est vrai, voilà ce que j'ai été, tu n'as pas compté comme tu devais compter pour moi, mais maintenant je me confie en toi. Je veux marcher avec toi. Alors le Seigneur vous bénira de sa bénédiction. Dieu notre Père, nous te remercions du fond de nos cœurs parce que nous constatons que ta parole opère dans chacune de nos vies. Tu nous réveilles par elle et nous voulons nous laisser réveiller. Tu nous le dis, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ luira sur toi, comme il luisait sur Étienne, pour lui donner un témoignage lumineux. Que ta grâce nous porte dans cette fin de journée, que nous puissions servir par la force que tu fournis, être seulement ton oracle, purifie nos lèvres. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les merveilles de ta loi et donne-nous par ton esprit de nous laisser corriger par cette parole qui nous sanctifie comme tu l'as dit, Seigneur Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Eh bien, mes amis, en ce mercredi soir, 5 juillet, nous poursuivons notre étude. Vous serez mes témoins avec le chapitre 10 des Actes et nous irons, si Dieu nous en donne la possibilité, jusqu'au verset 18 du chapitre 11. Nous avons donc à couvrir 66 versets. Je voudrais encore vous recommander une fois, quand vous venez à l'étude biblique, n'oubliez pas vos Bibles, parce que je suis persuadé que si vous pouvez suivre le texte en même temps que vous l'entendez, quand je le lis, eh bien, cela a un double effet. C'est pourquoi dans nos retraites Mahanaïm que nous faisons à Châteauguay, trois par année chez les Sœurs Grises, eh bien, nous conseillons toujours, quand nous envoyons chaque personne dans sa chambre pour lire pendant une demi-heure dans le silence, la portion qu'on étudie ensuite en atelier, en petit groupe, avant qu'on ait la plénière où je donne un message plus complet, eh bien, je leur recommande de lire à haute voix leur texte. Hein, parce que en lisant à haute voix, vous l'entendez en même temps. Vous le voyez et vous l'entendez et ça pénètre votre cœur. Et quand vous entendez votre voix, vous vous habituez à votre voix et c'est bon de s'habituer à entendre sa voix. Parce que comme ça, on pourra rendre témoignage. Parce que si vous voulez rendre témoignage, vous devrez parler. Vous n'êtes pas des muets. Hein. Alors, vous parlerez. Alors, habituez-vous d'abord à entendre votre voix. Et puis, quand vous lisez, et si vous lisez simplement, silencieusement, vous pouvez très bien passer sur des mots sans en comprendre le sens. Tandis que, si vous écoutez ce que vous lisez, vous pouvez noter un mot que vous ne comprenez pas et ensuite vous en demander l'explication. Eh bien, nous voulons vous recommander encore cela avec amour. Vous savez, diriger un temps, c'est pas facile et celui qui en a la responsabilité, il doit dire des choses des fois qu'il aimerait mieux ne pas dire. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut que ça passe par moi, bon alors il faut que je dise. Alors les rapports me viennent, et je suis bien obligé de vous le dire, mais croyez-le, si je dis des fois les choses d'une façon forte et ferme, c'est toujours avec amour. C'est parce que nous vous aimons, et que nous voudrions vraiment que tout se passe bien au temps, et qu'un jour vous nous disiez comme nos enfants nous l'ont dit, et papa, heureusement que tu n'as pas voulu cela, quand on te faisait la scie, pour avoir telle ou telle chose. Nous étions des enfants, mais toi, tu étais notre père. Heureusement que tu nous as résisté. Mon fils, qui est à Lausanne, qui était doyen de la faculté des lettres à Lausanne, eh bien, me disait un jour, parce que j'avais pas voulu passer par ces quatre volontés, je voulais aller passer ses examens avec la petite voiture du refuge, faire comme s'il était l'enfant d'un riche, avoir son autant. Non. Alors, j'ai tenu bon, il est allé vers sa mère, il a fait la scie à sa mère pour qu'elle cède. Et puis, elle était toute prête à céder. Elle intercédait pour lui, mais laisse-le une fois, qu'est-ce que ça peut faire? Et j'ai tenu bon. Alors, il est parti furieux. Et il m'a dit, je rappris mon examen. Imbécile. C'est français, hein. C'est français. Ça m'a pas impressionné. Et à midi, il est revenu et il a insisté à nouveau. Et j'ai tenu bon encore. Vous croyez que je n'aurais pas aimé qu'il prenne cet automne? Non. Les professeurs venaient en mobilette à ce moment-là et puis mon fils serait allé avec la deux chevaux? Non. Rien à faire. Il est parti. Furieux, voulant rater son examen pour punir le père. Et pourtant, quand il est revenu, il a téléphoné. Il avait réussi. C'était l'oral. Et alors, je l'ai attendu, j'étais acheté quelque chose pour le souper qu'il aimait bien. Sa mère dit, oh, c'est pas nécessaire. Oui, c'est peut-être nécessaire maintenant. Et alors il était tout content quand il est revenu, puis il m'a dit, papa, c'est un homme que je respecte. Je t'aurais méprisé si tu avais fait. C'est terrible, nos enfants. Hein? Non, mais je vous le montre, je vous le dis, ça nous fait mal à nous. On voudrait leur faire plaisir. Et là, il m'a dit cela. C'est un homme que je respecte parce que tu as tenu bon. Et oui, c'est pas toujours facile. Mais c'est peut-être bon de passer par là. Alors, hier, mes amis, nous avons survolé le chapitre 9 des Actes, ou plutôt ce matin, et vous aurez peut-être remarqué le verset 31 que vous avez dans vos Bibles, qui forme comme une charnière entre le récit de la conversion de Saul de Tarse, puisque le chapitre 9 est essentiellement la conversion de Saul de Tarse, et ce que nous avons appris ensuite au sujet du ministère de Pierre. Dans ces deux chapitres, Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul, et Pierre, nous les trouvons ensemble dans le même chapitre. Et nous avons appris des choses merveilleuses au sujet du ministère de Pierre. Il a guéri Aîné, le paralysé, depuis 8 ans, à Lydde, et il a ressuscité Dorcas à Jopé. Je vous relis alors le verset charnière. L'Église, c'est le verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et je crois que ce serait bon que nous méditions sur ces textes. Nous les survolons, mais j'espère que vous remarquez certaines vérités et que vous allez, dans la suite du camp, reprendre ces vérités et vous en pénétrer. Dans ce verset, il y a 4 beaux traits qui signalent l'Église au singulier, mais qui se trouve établie par des rassemblements dans diverses localités, dans divers coins de pays, la Judée, la Galilée, la Samarie, et l'on voit que dans le commencement de l'ère chrétienne, ces assemblées locales ne formaient au fond qu'une église, l'église de Jésus-Christ. Et 4 traits sont signalés. D'abord, l'unité qui se maintient par le lien de la paix. L'église était en paix. On pouvait être dans telle ou telle localité. Il y avait la paix qui régnait entre les communautés. Il n'y avait au fond qu'une seule église. La vraie unité de l'esprit qui se maintient par le lien de la paix. Et puis, il y avait l'édification. Ces églises, ces communautés, il est dit qu'elles s'édifiaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Édifier, ça veut dire bâtir, ça veut dire construire. Eh bien, il y avait dans ces communautés un élément qui bâtissait. Les âmes qui se rassemblaient n'étaient pas démolies, mais bâties, construites. Dans vos milieux, dans nos milieux, est-ce qu'on est démoli ou est-ce qu'on est construit? Et ce qui peut nous construire, ce qui peut nous bâtir dans nos communautés et dans nos propres vies, eh bien, c'est la parole. Une parole qui édifie. Il nous faut retrouver une parole qui édifie. dans mon pays et la communauté où je suis né, on avait ce qu'on appelait des réunions dans la semaine, qu'on appelait réunions d'édification. Le dimanche soir, c'était la réunion d'évangélisation, mais il y avait une réunion d'édification où l'on nous enseignait pour croître dans la connaissance de la parole, pour ne pas rester des bébés en Christ, mais pour tendre vers l'état d'homme fait, vers la plénitude de la stature de Christ. Bien, dans l'Église primitive, il y avait une édification, puis il est dit, un troisième point, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Il y avait dans ces communautés la crainte du Seigneur, qui n'est pas la peur de Dieu, parce que l'amour parfait bannit la crainte, mais la crainte du Seigneur, c'est la crainte de lui déplaire. Il y a des choses qui ne se faisaient pas parce que l'on savait que Dieu n'était pas dans cette affaire-là. Et la crainte du Seigneur habitait dans le cœur de ses croyants. Et je crois que nous avons besoin de retrouver cette sainte crainte du Seigneur, parce que Dieu est saint. Et il veut que ceux qui se réclament de lui soient saints. Puisque notre Père est saint, nous sommes des enfants qui sont appelés à la sainteté, à la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, ne nous y trompons pas. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, il faut cette séparation. Il faut réaliser ce que Wayne nous disait, n'est-ce pas, qu'au fond, en dehors de Christ, tout le reste, ce sont des ordures. Mais pour cela, il faut savoir qui est le Christ, il faut le connaître mieux. Si nous connaissions la valeur de Jésus, si nous connaissions mieux sa personne, on dirait, mais comment est-ce que j'ai pu vouloir autre chose que Jésus-Christ? Il n'y a rien qui dépasse Jésus-Christ. L'amour du Christ, elle surpasse toute science, toutes les connaissances que vous pouvez acquérir dans les plus hautes écoles de ce monde. Ne valent rien à côté de cet amour du Christ qui surpasse toute connaissance et qui peut vous conduire à des réalités extraordinaires. Vous faire marcher comme voyant ce qui est invisible, ça a été ce que Moïse a réalisé. Il a pu traverser pendant 40 ans le désert avec toutes ses épreuves, il marchait comme voyant l'invisible. Les choses visibles, elles ne sont que pour un temps, et tôt ou tard, elles deviennent des ordures. Les choses invisibles sont pures, les choses invisibles sont éternelles. Oh, que l'attrait pour les choses invisibles et réelles nous soit donné et nous amène à cette sainte crainte. Et puis, il y a un quatrième point, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, qui est le divin consolateur. Voilà ce que j'ai eu à cœur de vous souligner au sujet de ce chapitre que nous avons couvert ce matin. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas contristé, eh bien, il peut faire des merveilles. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous espérons et pensons. Donc, l'accroissement de l'Église se faisait par le Saint-Esprit, qui était vraiment le consolateur. Jésus avait envoyé le consolateur que le Père avait promis. De sorte que, dans ce verset, on voit l'Église, au temps de l'apôtre Pierre et de la conversion de Paul, était vraiment une, elle était sainte, puisqu'il y avait la crainte de Dieu, elle était catholique, dans le vrai sens du mot, elle était universelle, hein, et non seulement cela, elle était apostolique. Pierre allait de l'une à l'autre de ses communautés apporter la doctrine des apôtres. Église, une, sainte, catholique, c'est-à-dire universelle, et apostolique. Hélas, ce que nous savons, c'est qu'elle est devenue romaine. Cette église primitive, après des années de dégénérescence, mais il nous faut nous souvenir de ces termes et chercher à vivre ces choses. L'Église suivait donc l'enseignement des apôtres et des prophètes et rendait témoignage à la résurrection du Christ. Et qu'est-ce qu'apportaient les prophètes de ce temps-là? Eh bien, ils ne prédisaient pas l'avenir, mais la prophétie, c'était une parole qui leur était donnée du Seigneur et qui avait ces trois caractères. Elle édifiait, donc elle bâtissait, elle construisait les âmes, elle exhortait, elle apportait cette crainte du Seigneur, elle réveillait, elle stimulait, et puis elle consolait, parce que nous avons besoin de consolation. Et c'est toujours ainsi qu'on peut tester si un message vient du Seigneur. Il doit nous apporter une édification, il doit nous apporter une exhortation, il doit nous apporter une consolation. Ce sont les besoins de nos cœurs. Et alors ce chapitre 10 maintenant, que nous allons considérer, parcourir, est d'une grande importance pour nous qui appartenons aux nations. Parce que là, il y a un tournant et nous verrons comment l'Évangile a pu pénétrer les nations par le moyen de l'apôtre Pierre, auquel Jésus avait dit « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu ». Et on a vu l'apôtre Pierre ouvrant le royaume de Dieu à Israël, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. On l'a vu employer encore ses clés avec les Samaritains. Il ouvre le royaume de Dieu aux Samaritains qui sont mis sur le même pied que les Juifs de Jérusalem qui se convertissent au Seigneur. Et puis maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui va ouvrir le royaume de Dieu à ces païens, à Césarée, la ville romaine. Et vous aurez remarqué jusqu'ici comment Dieu emploie des moyens différents pour amener les âmes à sa connaissance. Vous avez vu la conversion d'un Éthiopien par qui? Par Philippe, un diacre. Hein? Puis, ce matin, nous avons vu la conversion de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, par une intervention souveraine de Dieu à midi, alors qu'il est en pleine opposition contre le Seigneur. Puis, aujourd'hui, nous allons assister à la conversion de Corneille, qui est un Romain. Et dans ces trois hommes, qu'est-ce que nous reconnaissons? Ça, c'est formidable. On reconnaît les descendants de Noé. C'est vrai ou c'est faux? Noé a eu trois fils. Cam, hein, qui est père des Africains et des Asiatiques. Et voilà que un Africain est sauvé. Qui? Le Nuque d'Éthiopie, un homme à la peau noire. Maintenant, le deuxième fils, c'était Sem. Et Sem est le père des Israélites et de certains peuples orientaux. Et alors, qui est sauvé? Saul de Tarse, qui est un Hébreu, descendant de Sem. Puis maintenant, il y avait un troisième fils qui s'appelle Japhet et qui représente les nations du Nord et de l'Occident. Et celui qui sera sauvé là, fait cornet. Donc vous voyez que l'évangile progresse. Jésus avait dit que cet évangile, il fallait l'apporter à toutes les nations. À Jérusalem d'abord, en Samarie, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait toucher Rome aussi. Alors tout se met en place, de sorte que maintenant, quiconque croira au Seigneur Jésus sera sauvé et recevra la rémission de ses péchés. Le salut est pour tous. Il n'y a plus de distinction et c'est ce merveilleux verset, cette parole que vous aimez tant, je l'espère, qui se réalise. Dieu a tant aimé Israël, non, le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est tout autre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous voyez comme dans le livre des Actes, tout se met en place selon le plan de Dieu, mais tout se fait graduellement. Alors faisons la lecture de ce chapitre 10. Il y avait à Césarée, il y a donc deux Césarées en Israël, il y a Césarée de Philippe qui est au pied de l'Hermon et Césarée maritime qui est sur la Méditerranée. Il y avait là à Césarée, une ville romaine, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme, il nous a révélé ce qu'il était. Il était pieux et il craignait Dieu. Il venait donc du paganisme, mais il avait été en contact avec la religion du vrai Dieu, de sorte qu'il croyait au Dieu d'Israël. Avec toute sa maison, il avait une influence sur sa maison, sur ses enfants, et non seulement sur ses enfants, mais sur ses serviteurs, et non seulement sur les serviteurs de sa maison, puisqu'il était un grand chef, mais sur ses soldats. C'est quelque chose de merveilleux, hein, de voir un homme de ce genre. Il faisait beaucoup d'aumônes, comme on en a vu un dans l'Évangile, aussi un centenier, qui avait fait beaucoup de bien aux Juifs. Il avait fait des dons pour leur synagogue et les Juifs viennent vers Jésus en lui disant que cet homme mérite que Jésus intervienne pour son serviteur qui était malade et Jésus l'a fait. Eh bien, voilà, à Césarée, il y avait un de ses centeniers qui avait fait beaucoup d'aumônes pour le peuple dont il s'occupait des pauvres et il est dit qu'il priait continuellement Dieu. Donc, vous voyez que il peut y avoir la crainte de Dieu là où on ne s'imagine pas. Souvenez-vous que c'est très grave de penser que tous les autres, n'est-ce pas, ne sont des rien du tout, il n'y a que nous qui sommes dans la vérité. Ça peut nous faire de graves erreurs. Souvenez-vous d'Abraham, par exemple, avec Abimélec, hein, pour s'excuser quand Abimélec lui dit « Pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Pourquoi est-ce que tu as dit que ta femme, c'était ta sœur ?» Et j'ai risqué de la prendre. Et puis, qu'est-ce que répond Abraham? Je croyais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu ici. Je croyais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu ici. Nous sommes toujours prêts à croire qu'il n'y a pas de crainte de Dieu ailleurs. Or, il peut y avoir la crainte de Dieu ailleurs. Et nous devons être conséquents, parce que sans ça, nous déshonorons le Seigneur. Eh bien, je vous demande d'étudier vraiment pour vous-même la vie de Corneille. Et j'ai souvent pensé que ce Corneille, alors même qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus, la vie éternelle, il avait la vie comme les croyants de l'Ancien Testament, avant la révélation de Jésus, ils avaient la vie, ceux qui croyaient. Mais ils n'avaient pas l'assurance de leur salut, ils n'avaient pas les certitudes que nous avons. Ils ne pouvaient pas dire qu'il était sauvé. Ils espéraient, dans sa crainte de Dieu, sur la miséricorde du Seigneur. Et alors, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, cet homme, il avait les caractères d'un ancien. Reprenez un peu la vie de cet homme, et vous verrez qu'il avait les caractères d'un ancien, dans un sens. Il avait bien élevé ses enfants dans la crainte de Dieu, et il avait un bon témoignage parmi tous les siens. Et alors voilà, Dieu a les yeux ouverts sur tous les peuples et sur toutes les nations. Vers la 9e heure du jour, c'est quelle heure?
3 heures.
Il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Ah, vous savez, nos noms sont connus d'en haut. Et les anges connaissent vos noms. Les anges connaissent les noms de tous ces petits-enfants, puisque chaque jour, ils vont faire leur rapport devant le Père. C'est pas merveilleux d'y penser. Tous les jours, les anges vont faire leur rapport devant le Père au sujet de tous vos enfants. Comme vous pourriez être tranquille et en paix en pensant à cet ange. Leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans le... Mais je sais très bien, on n'y croit pas. Hein. Mais on dit, oh, ça c'est de la superstition. C'est l'ange gardien de l'Église romaine. C'est pas du tout. Reprenez vos Bibles. Il n'y a pas besoin de tout rejeter. Hein. Quand on rejette l'eau du bain, on ne rejette pas le bébé. Hein. Gardez ce qui est vrai. Rejetez ce qui est trop. Mais ne rejetez pas le bébé avec l'eau du bain. Ce serait stupide. Hein. Gardez ce qui est essentiel. Et nous voyons qu'il y a des choses essentielles. Alors, ce qui frappe aussi, c'est qu'on dit, mais alors pourquoi est-ce que l'ange n'a pas fait lui-même la commission d'annoncer l'évangile, de dire, c'est Jésus-Christ le Sauveur? Mais les anges n'ont pas à annoncer l'évangile. Ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est d'assister les pécheurs convertis, les croyants. Mais est-ce que vous croyez aux anges? Est-ce que vous croyez au ministère des anges, que le Seigneur vous envoie son ange pour vous aider dans le chemin? Mais il faut être conscient de cela. Ils sont nos compagnons, comme Jean l'a réalisé à Patmos. L'ange lui dit, je suis ton compagnon de service. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pour nous aider à servir et à témoigner. Et l'ange lui dit, Corneille. Donc, il est étonné, les regards fixés sur lui, il est d'abord saisi d'effroi, parce que cet homme de lumière qui est là, près de lui, eh bien, le fait craindre. Et il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Vous voyez que les prières, elles montent devant Dieu, et on se dit, mais il n'a pas entendu. Mais oui, il a entendu. Mais il y a une heure pour sa réponse. Alors, s'il tarde, attends-le. J'aime tellement cette histoire qui est tout à fait véridique, cette petite fille qui a été à une réunion de prière qui avait été convoquée par des frères très pieux. Il y avait une sécheresse terrible dans le pays. Et puis, on avait décidé, comme ça se décide souvent, quand il y a une sécheresse ou quelque chose de terrible, une catastrophe, alors on fait une réunion de prière. Alors tout le monde se réunit. Et ils s'étaient réunis pourquoi? Pour demander la pluie. Et alors la petite fille, elle est venue avec un parapluie à la réunion de prière. Elle avait peut-être 9 ans. Elle est venue avec un parapluie. Alors les gens lui ont dit, mais ma petite, le ciel était bleu, il n'y avait pas un nuage. Elle a dit, mais ma petite, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens avec un parapluie? Mais on a dit que c'était une réunion de prière pour la pluie. Alors j'ai pris mon parapluie. Et figurez-vous que la foi de cet enfant a été exaucée. Avant la fin de la réunion de prière, il pleuvait des seils hein, qui tombaient du ciel. Alors les gens ont été édifiés. Les grands qui avaient organisé la réunion de prière sont venus demander conseil à la petite. Mais alors, quand tu pries, Dieu, il te répond comme ça. Dis oui. Il me répond, et toujours, mais des fois il me dit non, des fois il me dit non, ou bien des fois il me dit attends un peu. Et au fond, c'est cet enfant qui a édifié toute cette communauté. Dieu fait son œuvre par les enfants. On pourrait vous raconter des conversions de parents par leurs enfants. Nous en connaissons ici. De France, mais qui sont au Québec, un père qui est pasteur maintenant, qui a été au fond amené par le témoignage de son enfant. Alors, élevons nos enfants dans la foi, et vous verrez encore des merveilles. Nos prières, elles sont exaucées. Mais vous voyez, on se dit, mais non, mais moi je prie plus pour ça parce qu'il ne m'a pas exaucé. Souvenez-vous de Zacharie. Quand l'ange est venu, lui dit, Zacharie, tes prières ont été exaucées. Quelle prière? T'as pas demandé un enfant autrefois? C'est trop tard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? C'est comme pour Abraham. Hein? Tout est possible. Mais vos prières, elles sont recueillies, elles sont là, et ce qui plaît au Seigneur est devant ses yeux. Et tout cela est devant sa mémoire. Dieu y pense. Il ne vous a pas oublié. Ne croyez pas que vous êtes oublié. Dieu s'en est souvenu. Alors, verset 5. Envoie maintenant, c'est le moment, il y a un moment de Dieu, il y a l'heure de Dieu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Vous voyez qu'on connaît même le surnom dans le ciel. C'était Jésus qui lui avait dit, on t'appellera Pierre. Hein? Alors vous voyez d'où venait le message. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. On retrouve la même pensée qu'on a vue au sujet de la maison de Judas, où Saul de Tarse a trouvé un logis dans la rue, la droite qui existe encore à Damas. Hein. Les détails sont précis. Tenez nos adresses et nos changements d'adresse. Et quand il envoie des corbeaux pour nourrir Élie, eh bien les corbeaux ne se trompent pas. Ils vont au bon torrent, hein, au torrent du Kérit. Il faut nous remplir de tout cela, chers amis. C'est mieux que ce qu'on voit à la télévision. Et il faut que nos cœurs soient remplis de cette parole, qu'elle habite en nous, qu'elle nous réjouisse, et que nous puissions faire l'expérience du psalmiste. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées, comme Jérémie aussi. Et le psalmiste au psaume 119 disait, j'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Alors, verset 7, « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux, donc trois, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, vous voyez le contact qu'il avait, il pouvait parler à ses serviteurs et même à un de ses soldats. Et ses serviteurs ne pensaient pas faire la grève. » Ils n'avaient pas besoin d'un syndicat. Ils étaient bien soignés. Cet homme était juste. Et ils étaient heureux même comme serviteurs et comme soldats. Alors il peut tout leur raconter. Il partage. Alors vous voyez, ce que je voudrais souligner, c'est comment Dieu prépare une rencontre. Il prépare Corneille à Césarée, puis maintenant on va voir comment il prépare celui qui doit aller trouver Corneille et qui n'est pas prêt à faire ce pas. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre, qui ne sait rien de tout cela, il ne s'imagine pas du tout qu'il va devoir partir le lendemain à Césarée chez un païen, mais il a eu faim. Il eut faim. Il monta sur le toit à un certain moment, vers la sixième heure. C'était quelle heure? C'était midi, alors on peut bien comprendre qu'il avait faim. C'était le repas de midi. C'était le moment de manger. Il a eu faim alors qu'il était monté pour prier. Alors, il voulut manger. Vous voyez qu'il n'a pas dit, bien, puisque j'ai faim, peut-être que je dois jeûner encore. Je dois prolonger. Non, il a eu faim. Puis il a dit, bien, vous pouvez me préparer à manger. Vous avez faim, parce que vous ne mangeriez pas. Alors, il voulut manger. Mais pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est quand même extraordinaire. C'est pendant qu'on lui prépare à manger qu'il a tout d'un coup une vision, une extase, quelque chose qui le dépasse. Il avait été donc sur le toit pour prier. Pourquoi? Parce que c'est une maison au bord de la mer et Pierre était un homme de la mer. Il aimait la mer. Et alors, étant au bord de la mer, il aime aller sur le toit parce qu'il veut voir la mer aussi. Et puis, quand on est sur le toit, on voit le ciel. Il voyait le ciel où il avait vu entrer Jésus, et puis il voyait la mer où il avait tant travaillé. C'était pas la mer de Galilée, mais c'était une mer quand même, c'était la Méditerranée. Mais il voyait la mer, un pêcheur, il aime voir la mer. Alors il voyait la mer, mais il voyait le ciel. Puis, tout à coup, il voit le ciel ouvert. Extraordinaire. Après un Étienne qui a vu le ciel ouvert, il voit le ciel ouvert. Mais lui, il n'a pas vu Jésus. Qu'est-ce qu'il a vu? Le zoo de Grenville? Il a vu quelque chose qui descendait comme une nappe. Puis, il y avait toutes sortes d'animaux qui se trouvaient dedans. Une nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et alors il entend une voix qui lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange, puisqu'il avait faim. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, il reconnaît bien que c'est la voix du Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, parce que vous savez que la loi de Moïse, dans Lévitique, au chapitre 11, avait défini quels étaient les animaux purs et quels étaient les animaux impurs. Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et alors, pour donner sa leçon, il avait dit que certains animaux ne devaient pas être mangés, qu'ils étaient impurs et d'autres purs. Mais c'était des leçons que le Seigneur donnait pour amener les âmes à faire une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Mais un jour, tout cela allait être mis de côté parce que tout ce que Dieu a créé est pur. Et maintenant que Jésus était venu, au fond, c'est nous qui, dans notre manière de faire, quand nous touchons quelque chose, qui rendons cette chose impure. Mais tout est pur pour celui qui est pur. Tout est souillé pour celui qui est souillé. Mais Pierre était encore sous le régime de la loi, dit, Seigneur, il n'est pas dit qu'il y avait des animaux impurs là-dedans, n'est-ce pas? Mais il voit cela comme cela, et il dit, je ne veux pas manger de ce qui est impur. Et le Seigneur lui dit, pour la seconde fois, la voix se fit entendre, et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Vous voyez qu'on a toujours besoin d'apprendre de nouvelles leçons. Alors Dieu parle une fois, disait Élie à Job, deux fois, et on n'y prend pas garde. Alors il continue l'enseignement. Et cela arriva jusqu'à trois fois. C'est dit aussi dans le chapitre 33 de Job. Hein. Dieu parle une fois, deux fois, trois fois. Pour bien certifier à Pierre qu'il a quelque chose à apprendre. Et l'objet fut retiré dans le ciel. Et tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et vous voyez, la vision avait préparé déjà Pierre à quelque chose, mais il ne savait pas encore à quoi. Mais comme Pierre était là à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, parce qu'il faut qu'il soit convaincu, parce que ces gens, ce sont des païens qui viennent lui demander d'aller à Césarée. Pour lui, ce sont des païens. Voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors attention, hein. C'est ce que nous devons bien comprendre. C'est pas moi qui dis cela, c'est l'Écriture qui montre qu'il y a des choses qui se passent comme cela. Convaincre l'apôtre Pierre, qui a eu cette vision, mais qui ne comprend pas encore très bien, mais qu'il ne doit pas refuser. Pierre donc descendit et dit à ses hommes, il ne résiste pas à l'esprit, même si cette pensée l'étonne, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, et vous voyez, comme c'est simple, ce sont des faits. Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans la maison et d'entendre tes paroles. Ils sont trois là qui lui disent ça. Pierre donc les fit entrer et les logea, parce que là en Orient, l'hospitalité est de règle. Et le lendemain, il se leva et partit avec eux. Voilà qu'il a pris sa décision. Vous savez, la nuit porte conseil. Hein. Il y a des moments où on a des luttes terribles. Je sais ce que c'est. Est-ce que tu vas? Est-ce que tu ne dois pas y aller? Est-ce que tu es piégé? Tout ce que vous voulez. Et puis, le Saint-Esprit nous donne une conviction. Est-ce que tu dépends des hommes ou est-ce que tu dépends de moi? N'est-ce pas moi qui t'ai appelé un jour, en 1936, en Italie, quand tu étais en convalescence, et que je te guérissais, et j'ai dit oui à ce moment-là. Alors, tu vas me suivre, et tu vas continuer. Pierre, donc, l'accompagna, les accompagna. Et puis, il se lève, il part avec eux, verset 23, et quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. C'était bon qu'il y ait des témoins. Il ne va pas seul. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Ceux qui connaissent un peu l'endroit peuvent se représenter la marche qu'ils ont faite. Et Corneille les attendait. Il n'a pas douté que Pierre viendrait. Et pourtant, vous savez, Pierre avait reçu une instruction très précise. Au début, quand ils étaient au service du Seigneur, le Seigneur leur avait donné de la puissance et les avait envoyés. Et il leur avait dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains. Puis maintenant, c'est tout le contraire, c'est toute une autre chose qui se passe. Jésus avait dit, n'allez que vers les brebis perdues d'Israël. Et pourquoi est-ce que Jésus ne voulait pas qu'ils aillent vers les samaritains? Pour quelle raison? Ou vers les païens? Parce qu'ils ne voulaient pas sauver les païens? Ou les samaritains? Non, mais parce que ces hommes n'étaient pas prêts pour évangéliser les samaritains. S'il y avait eu la moindre résistance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tomber le feu du ciel sur eux. Alors, vous comprenez, il vaut mieux ne pas envoyer ces hommes-là. Et moi, j'ai bien réalisé souvent qu'il y avait des serviteurs qu'il ne fallait pas envoyer vers certaines âmes, parce qu'elles faisaient l'effet contraire. Moi, j'étais au fond de mon lit à 18 ans, et puis à côté de moi, il y avait un homme, on lui avait coupé les deux jambes. Puis un serviteur de Dieu vient me parler à moi, me faisant beaucoup de bonnes paroles. Puis moi, je me suis dit peut-être qu'il pourrait parler aussi à cet individu qui avait les deux jambes coupées, auquel je lisais la Bible tous les matins. Alors voilà ce serviteur, je lui dis bien combien c'était tragique pour lui, il avait 68 ans. Et il va vers lui, il dit alors monsieur, vous souffrez? Il dit bien vous savez, quand on vient avec les deux jambes à l'hôpital, puis qu'on repart sans jambes, c'est pas drôle. Eh bien mon cher ami, réjouissez-vous, vous aurez bientôt les jambes du ciel. Moi je grinçais presque des dents, parce que ça c'est l'effet contraire. C'était chanter une chanson à un cœur affligé. Vous aurez bientôt les jambes du ciel. Ça voulait dire, tu vas bientôt mourir. Mais non. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à exercer un ministère, alors le Seigneur ne veut pas. C'est pas le moment. Mais un jour, ce sera le moment. Parce que si vous prenez ce verset et vous le sortez de son contexte, le verset de Matthieu 10, vous n'irez jamais vers les païens. Tandis que, si vous comprenez que le Seigneur a des vues plus larges, alors vous ne marchez pas, vous, dans un chemin large, mais dans le sentier étroit, vous allez vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors Corneille les attendait, et puis, chose extraordinaire, il avait invité ses parents et ses amis. Et vous savez, pour qu'on ait dans sa maison nos parents et nos amis, il faut qu'on ait de bonnes relations, hein, parce qu'il y a des familles qui sont complètement brouillées. Bien, c'était pas le cas chez Corneille. Lorsque Pierre arriva, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Ben, il a été élevé chez les païens, puis pour lui, Pierre, puisque c'est un ange qui a donné son nom, ça doit être un messager divin. Alors, il se prosterne, et puis, immédiatement, Pierre le relève en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. » Quand ? Le jour avant. C'était le moment, hein. La dernière leçon, mais elle était venue à l'heure. Hein. Il m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme soulier et impur. Voilà, il avait compris maintenant la vision des animaux. Hein. Il comprenait ce que Dieu avait voulu lui dire. Dieu nous parle par les animaux. Et une certaine année, c'était notre thème. Hein. Interroge les bêtes et elles t'instruiront. Notre thème du temps. C'est pourquoi, verset 29, je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Et je vous demande maintenant donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alors Corneille, et c'est ça qui est tellement merveilleux, un témoignage, c'est exactement la vérité, c'est des choses qui se sont passées, on n'a pas besoin de se creuser la tête, qu'est-ce qu'on doit dire ? C'est des faits vécus. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé dans la maison de Simon, corvoyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Oh, comme j'aimerais que vous entendiez ça aussi, dans ce temps. Vous avez bien fait de venir. Pas pour moi, hein. Tu as bien fait de venir. J'espère que vous êtes convaincus que vous avez bien fait de venir. Pas pour le temps, mais pour le Seigneur. Là où on essaye de présenter la personne du Seigneur. Maintenant donc, nous sommes tous
devant Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas dit, nous sommes tous devant toi, apôtre Pierre. Nous sommes tous devant Dieu. Et bien que ce soir, nous soyons tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire et de nous dire. Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Alors là, il est convaincu. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Il montre bien qu'il n'est pas seulement le Seigneur des Israélites. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Une autre traduction dit, vous connaissez l'événement. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage de lui que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà ce qu'il a dit, hein, et notez bien ce verset. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom la rémission des péchés. Est-ce que vous avez reçu la rémission de vos péchés? Le pardon de vos péchés. Vous pouvez en être sûr si vous croyez en lui, par son nom. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Qu'est-ce qui s'était passé dans ceux qui écoutaient la parole? Ils avaient cru en son nom. C'était ça. Par cette prédication toute simple de Pierre, par ces faits qu'il leur racontait, cette merveilleuse histoire de Jésus, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, comme ça s'était passé à Jérusalem, à la Pentecôte. Ils ont vu la même chose. Et ce n'est pas les apôtres qui ont imposé les mains, là, comme en Samarie, parce qu'on reviendra dans le troisième passage sur Éphèse, sur ces choses-là, pour les développer. Mais je vous signale que la manifestation de l'Esprit se fait d'une façon différente, là. Mais il ne fallait pas que les païens pensent que c'était uniquement de Jérusalem qu'ils recevaient cela. C'était d'en haut, c'était du Seigneur. La même chose. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, donc le signe du christianisme, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est une question qui se pose, mais il n'était pas préparé à tout cela. Et il a dû faire face. Il a dû faire face. Et alors, que se passe-t-il? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Mais le pauvre Pierre a prêté quelques jours dans la joie, constatant les merveilles de l'amour de Dieu, il doit retourner où? Dans son assemblée, à Jérusalem. Et il va se faire ramasser. On va pas le caresser, on va lui passer la brosse dure. Hein. Et pourtant, c'est l'apôtre Pierre. On l'a pas compris du tout. Alors, on arrive facilement à cette fin. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Alors, au lieu de se réjouir, eh bien, lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. C'est la troisième misère que l'on voit dans l'Église primitive. D'abord, le mensonge d'Ananias. Ensuite, les murmures à cause des négligences des veuves au temple. Et maintenant, dans cette église si belle et si unie, on commence à se faire des reproches. Et d'où viennent ces reproches? Bien, parce que on ne connaît qu'une partie des choses. Et ils n'ont retenu, eux, que le fait que Pierre était allé chez les païens. Mais ils n'ont rien retenu des merveilles qui s'étaient produites chez ces païens. Il n'y a que ce fait qu'il allait chez les païens. C'est tout. Ils sont bloqués là. Ils ne veulent rien entendre d'autre d'abord. Tu es entré chez les païens, chez les incirconcis, et tu as mangé avec eux. Alors, que va faire Pierre? Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il n'a pas besoin de se justifier lui-même. Mais il leur dit, voilà, j'étais dans la ville de Joppé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tu es mort. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Voilà ce qu'il avait entendu, alors il leur dit les choses. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent. Heureusement, il a des témoins. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et il connaîtra le salut. Paul dira à Timothée, « Souffre tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi parviennent au salut. » Il y a des élus, ce n'est pas nous qui sauvons. Il y a des élus, mais nous devons les aimer, ces élus, et être les missionnaires qui leur apportent ce qui leur donnera la certitude de leur salut en Jésus-Christ, puisque maintenant, nous savons que la vie éternelle a été vue et manifestée, et qu'elle est offerte à tous ceux qui croient au Fils. Alors, verset 15, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. » Vous voyez que le Saint-Esprit devient sa mémoire. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? On retrouve un peu le conseil de Gamaliel. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent.
Ben oui.
Ce serait bien le moment de se calmer. On ne connaît que les choses d'une façon partielle et on part en guerre contre les uns ou contre les autres. Ils se calmèrent et au lieu de faire des reproches et de murmurer, ils glorifièrent Dieu. En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens pour qu'ils aient la vie. Ils commencent à aimer et à se réjouir que les païens soient sauvés. C'est beau, hein? Il n'y a pas besoin de commenter davantage. C'est ça, lire la parole et s'en pénétrer. Dieu notre Père, nous te remercions. Parce que ce soir encore, tu as voulu nous instruire et nous voulons nous laisser instruire et te demander que nous ne soyons pas toujours de ceux qui font des reproches aux autres alors qu'ils ne connaissent pas la vie personnelle et intime de tes serviteurs. Garde-nous de juger ceux qui ont un autre ministère que nous et donne-nous de nous aimer par-dessus toute autre chose et de nous soutenir les uns et les autres, jusqu'à ce que tu viennes. Oui, il n'y a qu'une chose qui compte, Jésus, et Jésus seul, et que nous puissions faire la paire de toute autre chose pour connaître le Christ, d'une connaissance qui n'est pas une information, mais qui est une relation, une union, une identification avec Jésus. Et Jésus seul, que ta grâce nous soit donnée pour cette nuit, sur nous, sur nos enfants, sur ceux qui sont au loin comme au près, et que tu nous donnes